la fin d'un évangile comme celui-ci, on peut être tenté de dire « c'est bien, mais ça n'est pas réaliste du tout ». Vous ne pouvez à la fois servir Dieu et l'argent, lance Jésus. Il peut y avoir, en entendant ces paroles, au minimum, comme un malaise, ou au moins une tentation de dissocier les choses. Pour la vie spirituelle, Jésus est bon. Pour la vie matérielle, il n'est pas du tout réaliste. On risque alors de reléguer Jésus dans le clan des doux rêveurs, de le cloisonner dans une dimension spirituelle qui n'atteint pas notre manière de vivre et d'agir. On court tout simplement le risque, comme le disait le pape François cette semaine, d'une double vie. Tout ce qui est dans les nuages, c'est pour Jésus. Tout ce qui est sur ma table, ça c'est à moi de le régler. Et ce risque nous guette tous. Je crois même qu'il est au cœur de notre conversion qui durera toute notre vie. Alors comment peut-on allier les deux? Et je pense tout spécialement à Tiphaine qui aujourd'hui va vivre une étape vers son baptême à Pâques. Comment à ceux qui viennent frapper à la porte de notre Église? Comment rendre des comptes de notre foi? Comment leur expliquer que nous avons à vivre tout ce que Jésus nous demande et que Jésus est bien plus réaliste qu'on ne l'imagine? Alors comment allons-nous aider Tiphaine et puis les autres catéchumènes, 8 dans votre paroisse, c'est superbe. Comment les aider à ne pas être tiraillés lorsque l'on entend ces paroles de Jésus? Je vous propose 3 pistes de méditation à la lumière des textes de ce jour. La première chose, c'est nous rappeler que la vie chrétienne est un véritable art de vivre. Pas simplement un art pour faire sa petite prière du soir, mais un art de vivre qui prend en compte toutes nos dimensions humaines. Rien de ce qui fait notre vie n'est indifférent à Dieu. Tout intéresse Dieu, du matin jusqu'au soir, y compris même la nuit, puisque le psaume et l'écriture nous dit « nous dormons dans les bras de Dieu ». Tout intéresse Dieu. La vie chrétienne, ça va justement être l'unification de notre être. Notre vie, on peut le voir, c'est un peu comme un vrai puzzle. Entre notre vie amoureuse, notre vie de travail, notre vie familiale et amicale, nos loisirs, nos désirs spirituels. En tout cela, la vie chrétienne va porter le désir de tout unifier, d'harmoniser notre vie. Et encore une fois, ce travail, c'est la conversion de toute notre vie. Ça ne se règle pas en un cours de caté, quoi. Toute notre vie, nous allons essayer d'unifier tous ces éléments. Et pour unifier et harmoniser, il me semble qu'il y a un moyen très concret, c'est d'avoir un objectif commun. Et cet objectif, c'est faire de notre vie une vie qui plaise à Dieu, une vie tendue vers lui. Vous vous souvenez de cette parole de Saint Paul qui résume en fait notre vie chrétienne? C'est quoi la vie chrétienne? C'est de faire de notre vie la plus concrète une offrande agréable à Dieu. Autrement dit, nous venons ici chaque dimanche à la table du Seigneur. Ce que nous avons vécu dans cette semaine, nous avons à le déposer sur l'autel pour en faire une offrande au Seigneur. C'est ça notre objectif. Et y compris dans les choses les plus concrètes et banales, hein. Il faut donc cet objectif, servir Dieu en toute chose, dans l'attente de le voir face à face. Unifier notre vie en se donnant cet objectif. Et puisque Tiphaine est parmi nous, catéchumène, c'est toujours l'occasion nous-mêmes de nous remettre au clair, hein, les vieux chrétiens. Mais vous savez que nous croyons en la vie éternelle, quoi. Et l'objectif de la vie d'un chrétien, c'est de se préparer à ce face à face avec Dieu pour vivre l'éternité. Donc le premier moyen que je vous donnais, c'était donc unifier notre vie autour de cet objectif de la rencontre de Dieu. Le deuxième moyen, c'est être convaincu que le Seigneur s'occupe de nous sans même que nous nous en rendions compte. On a entendu les textes de ce jour, il y a ce très beau passage de la première lecture, où le Seigneur prend cet exemple, il dit « Une mère, elle ne peut jamais oublier l'enfant qu'elle a mis au monde. » Et alors il va au-dessus de cela, le Seigneur, il dit « Même si une mère pouvait oublier son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. » La fidélité de Dieu à notre égard et le fait que Dieu prenne soin de nous. Dieu aime prendre soin de nous. Et typiquement, dans l'Eucharistie que nous célébrons, il prend soin de nous en nous offrant sa parole et au plus haut point tout à l'heure, en nous offrant son corps, quoi. Dieu prend soin de nous. Si on est tiraillé, parfois, il me semble, c'est parce que nous, on est toujours dans la démarche inverse. Qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper de Dieu ? Vous n'avez pas remarqué ça ? Et du coup, c'est hyper fatigant. Alors que le Seigneur nous dit, mais c'est moi qui m'occupe de toi. Je descends jusqu'à toi pour prendre soin de toi, comme une mère prend soin de son enfant. Et puis l'autre exemple, on l'avait dans l'Évangile, c'est celui des petits oiseaux, là, ou alors celui des lys des champs. Dieu s'occupe de nous sans qu'on s'en aperçoive. Et il prend cet exemple du lys des champs qui, de manière naturelle, par volonté de Dieu, a un habit qu'aucun roi au monde n'a jamais pu avoir. Le Seigneur nous dit, le lys, il a une parure que même le roi Salomon n'avait pas. Alors ne vous inquiétez pas à faire les boutiques à longueur de temps pour paraître davantage beau, parce que la beauté, elle vient de Dieu. C'est ça qui nous est dit tout simplement. C'est cette beauté qui compte. À l'époque de la chirurgie esthétique, autant féminine que masculine, je trouve que ça vaut le coup d'entendre ça. La beauté, elle vient de Dieu. Et je vous ai paré d'un vêtement que même les rois au monde n'ont jamais eu. Et vous valez bien plus qu'un lys. Dieu prend soin de nous et s'occupe de nous. Et puis troisièmement, c'est saint Paul qui nous révèle cela, en particulier dans la seconde lecture. Mais le Seigneur nous dit, si vous voulez ne pas être tiraillé, ne tombez pas dans le jugement de vous-même et le jugement des autres. Parce que vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. La question n'est pas de se juger. Et saint Paul en témoigne dans la lecture. Il dit, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur. Sous-entendu, notre travail à nous, d'hommes et de femmes, de chrétiens, ça n'est pas de nous juger nous-mêmes et encore moins de juger les autres. Ça, Dieu seul peut juger les cœurs. Et c'est comme un leitmotiv dans l'Évangile, Jésus dira, il ne vous appartient pas de séparer l'ivraie du bon grain. C'est un moment où les disciples disent, est-ce que c'est à nous de préparer la moisson ? Et Jésus dit très clairement, ça n'est pas votre travail. Ce que vous risquez en voulant enlever l'ivraie, vous risquez d'enlever aussi le bon grain. C'est un travail tellement méticuleux de juger les cœurs qu'il n'appartient qu'à Dieu. Moi, je trouve que c'est toujours assez nérant de réentendre ceci. Autant pour moi, mon propre jugement sur moi, que le jugement sur les autres. Saint Paul nous redit, ça ne vous regarde pas. Le cœur de l'homme est bien trop compliqué pour qu'on puisse le juger. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, vous savez, il y a cette parole, « Le cœur de l'homme est compliqué, malade. Seul Dieu peut le juger. » Là aussi, ça nous enlève un tiraillement énorme quand on se dit qu'on n'a pas jugé les autres. Le roi, le juge, il est là, devant nos yeux. Et lui, il va savoir la complexité de mon cœur et c'est lui qui portera un jugement qui sera à la mesure de son cœur. Et c'est ce qui donne la confiance à saint Paul. J'ai pas retenu tout à fait la phrase, mais en gros, saint Paul dit « Je suis sûr, j'ai une bonne conscience pour moi. » On peut se dire ça dans le travail aussi des fois. « J'ai une bonne conscience pour moi, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis juste. » C'est superbe, ça. Apparemment, j'ai tout fait bien. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je suis juste. Voilà ce que nous dit saint Paul. Parce que le jugement, la complexité du cœur de l'homme est bien plus profonde. Alors demandons cette grâce au Seigneur, peut-être en rentrant dans ce temps de carême, de nous aider à unifier notre vie, à comprendre que l'appel de Jésus, c'est pour notre vie concrète. Quand demain nous allons retourner au travail ou à l'école, pour ceux qui reprennent le chemin de l'école, du collège, quand on va se retrouver chacun dans nos activités, être convaincu qu'aucune chose que nous ferons ne sera indifférente aux yeux de Dieu. Le chrétien unifie sa vie, c'est le travail de, c'est son pèlerinage, sa conversion de toute une vie, mais tout intéresse Dieu, y compris notre manière de gérer l'argent.